marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Le 4 avril 1984, 6h du matin. Je commence mon journal.
D'Orwell au présent.
Je tourne le dos à mon télécran qui capte tous les sons émis au-dessus d'un chuchotement et enregistre tous les mouvements accomplis dans son champ de vision. Il en reçoit et transmet simultanément. On ne peut savoir combien de fois et suivant quel plan la police de la pensée se branche sur votre ligne. Elle peut le faire chaque fois qu'elle le désire. Il n'y a aucun moyen de débrancher l'appareil.
Quand le livre d'Orwell parut en 1949, en 1950 en France, les lecteurs vivaient encore dans leur chair l'expérience des deux totalitarismes du XXe siècle. Une fois le nazisme mis à terre, Orwell les appelait à se débarrasser du mythe de la révolution soviétique pour retrouver le fil d'un socialisme démocratique. C'était donc il y a bien longtemps. Une nouvelle traduction de 1984 paraît aujourd'hui, signée José Camoun. Elle donne au livre un autre éclat, un autre tranchant. Nous sommes en effet aujourd'hui dans une nouvelle configuration du contrôle et de la surveillance. En Chine, un régime tout à la fois communiste et capitaliste, ce qui paraîtrait inédit à Orwell, expérimente la notation sociale avec des critères et des registres de punition repensés à l'image du XXIe siècle. Qui n'a pas le bon comportement sera par exemple privé de voyage. Ici, ce sont les GAFA qui amassent les données personnelles nous concernant. Il faut savoir que leur patron voudrait nous voir en sujet bionique, appelé à se nourrir de viande synthétique. Les sémillants jeunes gens de la Silicon Valley ne sont pas nécessairement les meilleurs amis de l'homme, ni non plus des animaux. La nouvelle traduction de 1984 fait bien de se conjuguer au présent. Après le télécran, qu'Orwell décrivait vissé dans chaque maison, nous est vendu maintenant l'enceinte intelligente connectée à domicile. Le télécran enregistrait jusqu'aux modifications intimes de notre visage, aux pulsations de notre cœur. Nous sommes datagraphiés jusqu'à la moelle. Certains marketeurs bien intentionnés pensent par exemple en savoir assez sur nos émotions pour construire un programme de radio qui, calculant à la seconde leur utilisation, serait donc assuré du succès. Idem pour la fabrication des livres. C'est sûr, sans 1984, la police de la pensée, la manteau police, dit la nouvelle traduction, serait débarrassée d'un obstacle gênant.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
José Camoun, bonjour.
Bonjour.
Depuis que vous avez quitté l'enseignement, vous êtes 12 heures sur 24 devant votre table, traduisant à l'abri de tout télécran. Ça a été très difficile, la traduction, vous la publiez chez Gallimard de 1984, vous décrivez le héros, Winston, à un certain moment, gélatineux de fatigue.
Oui, c'est l'adjectif que Orwell lui-même a employé. C'est toujours très difficile de s'attaquer, c'est toujours intimidant de s'attaquer à un monstre sacré comme 1984. Et on se dit, c'est toujours difficile de retraduire, en ce sens qu'on se dit, si je retraduis, c'est parce qu'il faut que j'ai quelque chose à dire, une autre lecture à donner. Donc dans ce sens-là, on est à la fois rassuré parce qu'il existe une traduction antérieure qu'on pourra toujours aller voir en cas de besoin. Et on a aussi ce sentiment qu'il faut donner du plus, du supplément, ou de l'autre en tout cas. Donc dans un premier temps, c'est un peu intimidant. Le texte en lui-même n'est pas d'une difficulté insurmontable. On en a vu de plus difficile, on en a traduit de plus difficile. Ce qui me gênait beaucoup au début, c'était que je percevais bien que le passé simple, que j'avais employé spontanément, pendant 30 pages, voire 50, m'entraînait dans des constructions assez laborieuses, avec des plus que parfaits et des imparfaits du subjonctif, qui ne rendaient pas du tout compte de l'effet de l'original. Car l'original est ascétique et coupant.
Donc vous avez choisi le présent. Voilà. Alors c'est plus difficile à certains égards de traduire Orwell parce que vous ne pouvez pas avoir de séance d'élucidation comme vous en aviez avec Philip Roth que vous avez longtemps traduit. On ne va pas raconter, élucider la vie d'Orwell, absolument rocambolesque, généralement impécunieuse. Disons que cet homme de gauche a fait l'expérience douloureuse de la guerre d'Espagne. Il a découvert à cette occasion le vrai visage du stalinisme. Et c'est après la guerre, d'ailleurs, que le succès lui vient, non pas aisément, il est déjà malade, mais assez généreusement, par exemple avec ce texte fameux qui s'appelle « La ferme des animaux ».
Mes chers frères, j'arrive au terme d'une longue vie. Seul dans cette étape, j'ai pu consacrer de très longues heures à la méditation. Mais aujourd'hui, je sens que ma fin approche. Avant de vous quitter, je désire vous livrer le fruit de mes réflexions. Ce que nous produisons nous est enlevé, pire encore, volé et vendu au profit de Jones. L'heure a sonné de la révolte.
Mais la révolution des animaux n'était plus qu'un vague souvenir. Le moulin sur la colline commémorait à jamais le courage, la foi, le sacrifice de ceux qui l'avaient édifié.
Ceux qui l'avaient édifié, ce sont les pauvres. Ben oui, mais le souvenir de la révolution n'est plus qu'un mythe. Bon, ça a eu beaucoup de succès, La ferme des animaux, notamment parce qu'on peut l'habiller comme dans ce film de Joy Bachelor avec des sons d'animaux. Mais ce livre, aussi bien que 1984, ça gêne aussi une partie de l'intelligentsia de gauche qui n'aime pas entendre dire, après la Seconde Guerre, au début de la guerre froide, que la révolution soviétique est un mythe.
Absolument, et ça va durer quand même assez longtemps pour qu'on le reconnaisse, pour que d'aucuns le reconnaissent. Ce que je trouve très intéressant dans cet extrait, ce qui me fait sourire très jaune comme vous pouvez l'imaginer, c'est que ces grognements d'animaux qu'on entend préfigurent tout à fait le couacage idéal du néo-parlé, son but ultime. Mais en tout cas, on pourrait dire que sur le plan de l'intrigue, donc Orwell, qui s'était largement exprimé par ses chroniques, ses articles, est passé là à la fiction. Il a écrit une fable, cette fable de la ferme des animaux, qui s'arrête au moment où la révolution, évidemment, a changé de couleur et dégénéré. On pourrait dire que 1984, cette fois-ci c'est un roman, une deuxième fois il passe par la fiction, 1984 commence là où s'arrête la ferme des animaux, puisqu'on va nous faire voir, en quelque sorte, l'aval, l'avenir de cette révolution.
Alors nous sommes dans un monde divisé en trois, l'Océanie, l'Estasie, l'Eurasie. Il y a toujours une guerre permanente, des puissances s'allient, puis font des retournements d'alliances, qui fait qu'ils tombent toujours des roquettes sur les pauvres, sur les prolos. La société d'Océanie, Londres capitale, est divisée elle aussi en trois. Au sommet de la hiérarchie, il y a Big Brother, il y a le parti intérieur, il y a le parti extérieur, et à la base de la pyramide, les prolos, dont le héros, Winston, tel le personnage qu'est Orwell, aime particulièrement, qu'il voudrait rejoindre. La première traduction, il n'y a pas eu d'autre depuis en français, c'était celle d'Amélie Audiberti. Winston, dans sa combinaison de membres du parti, s'approche d'un bar, d'un bistrot, de prolos comme attirés par eux.
Il poussa la porte et une horrible odeur caséeuse de bière aigre le frappa au visage. Comme il entrait, le bruit des voix diminua de la moitié environ de son volume. Il sentit derrière lui tous les regards fixés sur sa combinaison bleue. Une partie de flèche qui était en train à l'autre extrémité de la pièce fut interrompue pendant 30 secondes au moins. Le vieillard qui l'avait suivi était au bar où il discutait avec le barman. « Je vous parle assez poliment, pas ?» disait le vieillard en redressant les épaules d'un air batailleur. « Vous dites que vous n'avez pas un verre d'une pinte dans tout votre bon sang de bistrot ?»« Eh nom de nom, qu'est-ce que c'est qu'une pinte ?» demanda le barman en se penchant en avant, l'extrémité de ses doigts appuyée au comptoir. « Entendez-moi ça. Ça s'appelle barman et ça ne sait pas ce que c'est qu'une pinte. Quoi ? Une pinte, c'est un demi-quart et il y a 4 quarts dans un galon. La prochaine fois, faudra vous apprendre l'ABC. »
Alors on va pas discuter pied à pied la traduction d'Amélie Oudiberti. Elle a eu le mérite de faire connaître Orwell, comme Alexandre Vialat a fait connaître Kafka dans les premières traductions qui sont parues en français. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bistrot ?
Alors ce bistrot, mais de toute façon à l'époque, je pense que si elle avait traduit par pub, il y aurait eu une véritable levée de boucliers et on aurait dit que c'était du franglais. On est en 1950. Hein. Donc, et en outre, je pense que... À l'instar d'Amélie Oudiberti, un certain nombre de Français n'avaient jamais vu de pub, manifestement, ne savaient pas qu'il y avait des parties de fléchettes et non pas de flèches, on imagine du tir à l'arc, c'est quand même assez dangereux entre les clients. Et je crois qu'il y a là une évolution culturelle, une évolution de contact culturel qui fait que ça, le mot pub maintenant en français allume l'image qu'il faut dans l'esprit du lecteur, alors que si on mettait bistrot, ça serait moins efficace.
Comme quoi il faut historiciser, excusez les gros mots, les traductions. Absolument. Alors, il y a les prolos, et puis ceux qui dirigent l'Océanie sous l'autorité anonyme de Big Brother, dont le portrait apparaît cependant partout, ce sont les membres du parti. Alors, il y a 2 catégories dans le parti.
Ah, bien sûr, parce que certains animaux sont plus égaux que l'autre, que d'autres, pour reprendre le terme de la ferme des animaux. Il y a 2 catégories, ceux du parti extérieur, qui sont vraiment, dans le récit, quand la description et le récit d'Orwell, les dindons de la farce, parce qu'ils ont à peu près tous les inconvénients sans avoir des avantages. Donc, ceux-là triment comme des malheureux, vivent dans un monde pénurique, ont des chaussettes trouées, du jean trafiqué. Ils sont certes au-dessus des prolos, mais Winston, ce membre du parti extérieur,
le héros,
bien sûr, considère les prolos avec un œil d'envie, car les prolos, comme le dit le slogan du parti, les animaux et les prolos sont libres. Et notamment, ils jouissent d'une certaine licence sexuelle, même si ça veut dire aussi vieillir très vite, faire beaucoup d'enfants. Quant au parti intérieur, ce sont justement les animaux qui sont plus égaux que d'autres, et cela, personne ne sait au juste comment ils vivent, jusqu'à ce que Orwell nous introduise chez O'Brien.
Alors O'Brien, il a une combinaison d'une autre couleur que Winston, il lui est supérieur, et puis il a des domestiques, enfin au moins un, il a du vin fin, simplement du vin d'ailleurs, des cigarettes, et puis dans sa maison, comme dans l'appartement vétuste de Winston, il y a un télécran, c'est-à-dire un écran qui observe et qui diffuse, et lui, il peut le couper.
Il peut le couper, mais pas trop longtemps.
Un peu quand même.
Ça ferait des ordres. Oui, il peut le couper une demi-heure. Donc, à la fin de leur entretien, avant la fin de leur entretien, il va le rétablir. Et c'est très intéressant, le statut d'O'Brien. Peut-être qu'on en parlera maintenant ou plus tard. Et c'est un personnage pivot du roman. C'est un personnage pivot sur le plan de l'intrigue. Donc, il jouit d'un certain nombre d'avantages, mais il faut tout de même qu'il se surveille. Et lorsque Winston va atterrir, comme le lecteur le prévoit depuis le début, dans les geôles du ministère de l'amour, il dit à O'Brien, dont il ne soupçonne nullement le double jeu, « Ils t'ont eu, toi aussi ?» Et O'Brien répond cette phrase énigmatique, comme beaucoup de ses phrases, « Ils m'ont eu depuis longtemps. » Faut-il comprendre qu'il a été dissident, qu'il est repenti et utilisé pour cette raison ? Je ne sais pas.
Alors, son télécran... Il est central chez lui, O'Brien, il le contrôle, il est central chez Winston qui peut juste le mettre en sourdine. Vous conjuguez le livre au présent, ça vous fait penser à la Chine par exemple ?
Ça me fait penser à la Chine parce que j'ai été absolument sidérée de découvrir cette affaire de 600 millions de caméras de surveillance à reconnaissance faciale et aussi par autre chose, dans certaines grandes usines chinoises, on a convaincu les ouvriers de porter des casques avec électrodes qui sont reliés à un central et observés dans ce central pour noter leur degré de stress, de distraction. Donc on est quand même au cœur de la question.
Moi, ça me fait penser aux enceintes intelligentes dont on nous vante les mérites et qui sont installées, proposées à un prix très abordable par les GAFA avant de l'être par les grandes entreprises de communication plus traditionnelles comme Orange. On peut les connecter aux outils déjà connectés qu'on a chez soi. Ça permet de donner des ordres, comme aux domestiques de O'Brien, à moins que ça puisse servir aussi à tout enregistrer. Alors l'ARCEP, la CNIL, les instances de régulation recommandent, si vous achetez ça, coupez l'historique le plus régulièrement possible, parce que à quoi peut-il servir ?
Ok Google, souviens-toi que j'ai rangé mon passeport dans le bureau, dans le tiroir de droite.
D'accord, je m'en souviendrai.
Ok Google, sais-tu où est mon passeport ?
1er août 2017, souviens-toi que j'ai rangé mon passeport dans le bureau dans le tiroir de droite.
Ok Google, lance la série House of Cards sur ma télévision.
Bien sûr, je mets House of Cards depuis Netflix sur Chromecast.
Ok Google, crois-tu en Dieu ?
Les ingénieurs ne m'ont pas donné de religion, mais je peux faire des recherches pour vous. Que voulez-vous savoir ?
Ok Google, lance une musique pour me réveiller.
D'accord.
Bah, nous, ça nous a donné l'idée de lancer un bon vieux catalan, un chant catalan anarchiste. Il a fait la guerre d'Espagne et pas du côté des communistes, George Orwell.
Marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Ah, ça fait du bien, le chant du passé. Parce que dans 1984, expliquez-nous, José Camoun, vous en faites une nouvelle traduction, c'est publié chez Gallimard. Le passé n'a pas bonne presse dans l'Océanie dirigée par Big Brother. Et le héros, Winston, qui a un appartement assez biscornu pour pouvoir, dans un espace hors d'atteinte de l'œil, qui le fixe, écrire son journal intime, l'écrit sur un vieux cahier avec du beau papier, papier comme on en fabriquait autrefois. Il aime bien tous les objets anciens, Winston.
Il aime bien tous les objets anciens et il entretient en quelque sorte cette idée ou ce fantasme que autrefois c'était mieux. En tout cas, il se pose la question. Et que son exaspération devant la pénurie du quotidien, mauvaise cuisine, mauvaise nourriture, mauvais alcool, etc. D'où vient-elle après tout ? Si tout a toujours été aussi infect, comment peut-il s'en souffrir ? Et il en déduit qu'il a en quelque sorte une mémoire. De quelle sorte de mémoire s'agit-il ? Je serais tenté de dire qu'il s'agit d'une mémoire du corps, qui lui dit, qui lui suggère que ça n'a pas toujours été comme ça. Et donc ce geste qu'il fait d'écrire son journal, sans passer cette fois-ci par un phonoscript, par l'écrire, comme je l'ai traduit, il l'écrit de manière assez charnelle. Le papier sent bon, il a une qualité particulière, une onctuosité, on pourrait dire, et c'est sa main qui l'écrit et non pas sa voix qui le crache dans un micro. Donc c'est un geste, bien sûr, de révolte intellectuelle et philosophique, mais ce geste passe par un plaisir qu'on pourrait dire tout à fait charnel.
Mais au bistrot, vous dites le pub, oui. Il va essayer d'avoir les souvenirs d'un vieillard qui aurait connu le Haut-Forme à Londres avant la guerre et les grandes transformations, qui aurait peut-être vu les cortèges de la famille royale, et il découvre une brocante.
Il découvre une brocante, et nous ne savons pas où elle nous mène, cette brocante. Non seulement il découvre une brocante, mais à l'intérieur, il découvre évidemment un vieux monsieur, dont je ne vais pas dire tout de suite.
Non, parce que c'est un roman avec une intrigue.
C'est un roman qui se lit d'ailleurs comme un thriller, parfois. Et ce vieux monsieur va lui proposer des affaires, des objets qui sont extrêmement hétéroclites. Et parmi ces objets, d'ailleurs, il y a une sorte de presse-papier qui est en verre, une sorte de loupe de verre. À l'intérieur, il y a un corail, un bout de corail. Et on pourrait dire que c'est un microcosme dont Winston s'empare et qui est d'autant plus, qui procure une jouissance d'autant plus grande qu'il ne comprend pas ce que c'est.
Et il ne le comprend pas parce que le passé, maintenant, est interdit.
Et vous ? Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?
Je rectifie les articles du Times.
Quel numéro ?
celui du 11 octobre dernier.
Beaucoup de changements ?
Oh, pas tellement. Bon, les prévisions du 6e trimestre du 9e plan ne correspondent pas à l'état de la production. Et le ministère de l'Abondance avait fait la promesse de ne pas réduire la ration de chocolat durant l'année 1984. Bon, la semaine prochaine, nous pourrons réimprimer.
Vous refaites ce numéro pour la première fois ?
Non, nous sommes à la 12e réimpression. La ligne politique a souvent varié ces mois derniers.
Ça doit vous amuser de mettre ainsi à jour le passé.
Oui.
Grand maître de la réalisation, Jean-Jacques Vierne avait composé une dramatique à partir de 1984. Le passé inutile, gênant, il est vaporisé. C'est le mot, c'est votre mot, ça?
Non, vaporiser. Non, c'est vaporized, qui est, oui, c'est le mot d'Orwell qui a été d'ailleurs, qui était présent dans la première traduction. Ce sont les gens qui sont vaporisés, mais évidemment, le passé est vaporisé aussi. Et cette réduction du langage qui est évoquée dans le passage que vous avez, que vous venez de passer, est vraiment une réduction ultime. Comme dit le personnage de Syme, ne vois-tu pas que tout le propos du néo-parlé est de rétrécir le champ de la pensée?
Alors justement, vous dites néo-parlé. On va entendre le passage toujours dans la dramaturgie de Jean-Jacques Vierne que vous évoquez. Le mot qu'on utilise, qui est entré dans l'usage, comme Big Brother, c'est novlangue.
Absolument. Et il est entré dans mon usage aussi. Et il va continuer d'y figurer.
Et c'est... vous avez quand même préféré néo-parlé.
Mais bien sûr, justement pour ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout dans ce que nous appelons couramment la novlangue, c'est-à-dire langue de bois, technolecte, langage de l'entreprise, etc., euphémisation. On n'est pas du tout là-dedans. Dans le néo-parlé, que d'ailleurs Orwell appelle « new speak », s'il avait voulu écrire « new langue », croyez-moi, il l'aurait écrit, le néo-parlé, c'est la solution finale des mots. Autrement dit, ce n'est pas seulement une différence de degré, c'est une différence de nature. Cette entreprise vise à bloquer la pensée pour toujours.
On utilise souvent dans la presse le mot novlangue.
Mais bien sûr, et pour cause.
Pour filtrer, je sais pas moi, le langage de propagande de la mairie de Paris, ou bien chez les agriculteurs, dans l'agriculture techniciste, les soins donnés au porc, ça veut dire la castration du mâle, vous voyez.
C'est intéressant, mais même un plan social, c'est un euphémisme intéressant.
Mais okay. C'est au-delà de l'euphémisation. Alors voilà, le dialogue de Winston à la cantine grise à laquelle il est astreint tous les midis avec un de ses collègues.
Quel dictionnaire avance-t-il ?
Lentement.
Votre principal travail consiste, je pense, à inventer les mots nouveaux.
Oh, pas du tout. Nous détruisons, au contraire, des mots chaque jour. Des vingtaines, des centaines de mots. Après tout, pourquoi conserver un mot qui n'est que le contraire d'un autre ? Prenez par exemple « bon ». Quelle nécessité y a-t-il à garder « mauvais » ? Non, « bon » fait tout aussi bien l'affaire, mieux même, car il est l'opposé exact de « bon ». Et si on désire un mot plus fort que « bon », pourquoi se servir d'une chaîne de mots vagues, inutiles, comme « excellent » ou « splendide » ? Plus « bon » englobe toutes ces expressions. Et si on cherche un mot encore plus fort, il y a double plus « bon ». Dans la version définitive de la novlangue, la notion du bon et du mauvais sera couverte par 6 mots seulement, découlant tous du même mot. Comprenez-vous, Winston, l'originalité de cela ? Savez-vous que la novlangue est la seule langue dont le vocabulaire diminue chaque année ?
Je l'ignorais.
Ne voyez-vous pas que le véritable but de la novlangue est de restreindre les limites de la pensée ?
Si je comprends bien... On a tellement euphémisé la novlangue qu'on a oublié le côté solution finale qui inquiétait tant Orwell.
Absolument. Et autant nous avons plaisir à dénoncer cette novlangue, que nous parlons d'ailleurs tôt ou tard les uns et les autres, mais effectivement on l'a banalisé et édulcoré ce terme, que je conserve avec beaucoup de plaisir parce que c'est un mot qui enrichit la langue, mais il s'agit de donner un sens plus pur au mot de la tribu, comme disait Mallarmé. Et là il faut vraiment restituer la violence extrême de l'original.
Winston essaye de s'échapper, va rencontrer une femme qui jusqu'à un certain point lui ressemble et qui n'utilise pas le néo-parlé quand elle est dans une relation spontanée avec les gens. Ils vont connaître une histoire d'amour. C'est un roman d'amour avec une intrigue et avec des lieux. Alors, il y a un lieu de rendez-vous. Le premier, c'est la colonne avec la statue de Big Brother. Vous savez, à Prague, autrefois, on se donnait rendez-vous au pied de la statue de Lénine. Et quand on était dissident, c'était dans le dos de la statue de Lénine. Mais il se donne rendez-vous dans une forêt. aussi. Une forêt où il n'y a pas de micro. Donc il faut être dans un buisson très éloigné de toute route humaine. Et là, ils entendent une grive.
Ils entendent une grive et c'est un passage, c'est peut-être le passage lyrique du roman. Parce qu'à entendre cette grive, tous les deux, je dirais en langage moderne, lâchent prise. Ils sont éblouis par cette beauté et ils connaissent une fusion. Fusion amoureuse, bien sûr, entre eux, mais aussi, je dirais, une fusion amoureuse avec la nature, cette nature qui est impitoyablement chassée du Londres tel qu'ils le connaissent. Et nous allons avoir, dans l'extase amoureuse, cette fusion par le beau et par l'amour qui répond presque terme à terme à la fusion par la haine qu'on a vue dans les deux minutes de haine et qui se couronnait par cette espèce de mélopée bébé.
Oui, parce que régulièrement, il y a une semaine de la haine.
Et deux minutes de haine tous les jours.
Et tous les jours, deux minutes de haine.
Donc on a, et c'est bien là aussi qu'on voit que la composition est profondément romanesque. On a les deux piliers, si vous voulez, la haine et l'amour. Je pense qu'il y a dans cette grive une réminiscence du Rossignol de Keats, qui justement, lorsque le poète l'entend, lui permet de ne faire qu'un, de rejoindre peut-être ce que Freud appelait le sentiment océanique.
Et Imre Kertész racontait souvent l'histoire de Lénine vieux sur son fauteuil roulant, incommodé par un rossignol au-dessus de sa tête. Et alors il essayait de lui lancer des cailloux, mais il n'avait plus la force de tuer le rossignol. Comment vous avez traité l'intrigue, le côté thriller, vous avez employé le mot ?
Eh bien, c'était une des raisons pour les. Enfin, c'était très une approche cohérente avec l'idée de la traduire au présent, bien sûr, et aussi de pratiquer la même ascèse qu'Orwell, c'est-à-dire d'éliminer tout ce dont je n'avais pas besoin absolument, tout ce qui ne traduisait pas les effets de l'original. Il fallait faire dans le dépouillement, il fallait faire dans l'incisif. J'ai dit une fois c'était une lame, hein, ce texte était une lame, j'ai retiré le papier bulle. Alors il n'y a plus d'écran protecteur. L'écran protecteur de la bienséance, de la première traduction, je comprends très bien pourquoi la bienséance de 1950 faisait dire « vous » aux camarades du parti, mais ça ne convient pas, et qui faisait dire aussi « Big Brother vous regarde », alors que je crois qu'en réalité c'est « Big Brother te regarde », parce que parmi les choses qu'on voit traitées par Orwell au fil du roman, il y a vraiment le viol de la conscience individuelle.
Et le contenu politique, le camarade Orwell, il attend toujours du peuple. En même temps, il n'est jamais très cohérent politiquement.
Peut-être est-il ambigu, ou plutôt, je dirais, ambivalent. Et je me demande si quelque chose de cette ambivalence ne passe pas dans la structure du livre. Je ne sais pas si le lecteur le remarque, ou en tout cas s'en sert, mais nous avons le roman lui-même et l'appendice après. Appendice qui nous explique les fonctionnements du néo-parlé, les structures, etc. Je me pose une question, et si je faisais tourner les tables pour communiquer avec Orwell, je la lui poserais. Camarade George, qui écrit cet appendice et d'où ? Aurions-nous un changement de narrateur, de narration ? Donc je pense que, quelque part, cette narration nous dit que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, finalement, on n'est pas arrivé à ce régime parfaitement totalitaire. Et pourquoi ? Donc la question, c'est la solution est-elle venue des prolos ? Et je pense que cette question, Orwell se l'a posée en tant que.
Et puis, au bout d'un moment, au bout de ses incohérences, il était bien obligé de reconnaître que ce n'était pas par les prolos que viendrait la grâce.
Il avait de furieux doutes.
Mais son principe, quand même, en politique, s'il en avait un, si je vois un côté de la balance qui est un peu plus bas, qui est un peu plus faible. Ben, j'essaye de peser en sorte qu'il monte.
Certes, de toute façon, le parcours d'Orwell est bien connu. Il est né dans la bourgeoisie post-victorienne, il est né 2 ans après la mort de Victoria, il est né chez des fonctionnaires coloniaux, hein. Donc il a tout ce parcours, il a une illumination, un chemin de Damas peut-être, pourrait-on dire, donc il est assez logique qu'on soit devant ce type de réaction.
1984, nouvelle traduction sous votre signature, José Camoun, c'est chez Gallimard. L'émission a été préparée par Ilinka Negulesco, Nicolas Cazot à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation. On va passer le relais au camarade Daniel Fievet.
Bonjour Jean Lebrun.
Oh là là, c'est un bonjour Tony Truon.
Ah bah comme toujours.
Pourtant le sujet.
On va parler d'histoire avec un médecin légiste qui réouvre les cold cases de l'histoire.
Oui, donc... nous avons des visions de cadavres déjà qui arrivent, on est habitué après avoir lu Orwell.
Le télécran sonna 14h. Curieusement, le carillon de l'heure parut lui communiquer un courage nouveau.
Eh oui, on est encore en 1984, mais rassurez-vous. Voici de nouveau France Inter avec Alexis Demeyer comme vigie de l'information. Bonjour à vous.